Spivak II.
Ainsi donc,
pour certains d'entre nous, comment légitimer le genre et la sexualité
dans un cadre de travail méthodologique approprié, c'est aussi prendre le tout pour la partie, vous voyez.
Et donc cette chose que je viens de décrire, la formation de la culture elle-même
et l'incroyable pouvoir de l'hétéronormativité de la reproduction pour, comme je l'ai souvent dit, c'est le globaliseur tacite bien longtemps avant que le globe ait pu être pensé.
À la fois capitalisme et communisme, ils sont pris les deux là-dedans. À la fois le colonisé et le colonisateur sont pris là-dedans. Ce genre de choses,
c'est un gigantesque conteneur, un tout.
Mais nous devons aussi penser à l'intérieur de lui,
à une partie.
Et là, je vais faire quelques petites connexions avec le capitalisme. Le capital
en tant que
abstrait.
Je vais tout à l'heure faire des connexions. Mais quand nous nous disons comment allons-nous faire de l'engagement féministe une partie, méthodologiquement une partie de la disciplinarisation, nous sommes aussi en train de prendre le tout pour la partie, pour une partie, d'une certaine façon. Et c'est là que la disciplinarisation est bien plus grande, parce que la plupart des universités d'élite, élite et non-élite aussi, du monde,
sont sur un certain modèle médiéval européen.
Par les règles de la disciplinarisation, nous construisons ce que nous nommons, quoi qu'il soit, le « féminisme » entre guillemets « engagé » comme objet de savoir, en sorte qu'il puisse alors être divisé en catégories constituantes.
Je crois que c'est bien pour la politique.
En témoignent les plateformes d'action que le féminisme engagé, global et local, doit construire.
Et là, je dois vous dire à vous, public présent, que du fait que les universités
fonctionnent de manière
si différente financièrement, par exemple maintenant, j'enseigne à une université privée, alors qu'on peut regarder dans ma carrière, j'ai aussi enseigné dans des universités publiques et certaines qui étaient dans des zones d'ombre entre public et privé.
Ainsi donc,
dans le cadre de l'Université de Columbia,
avec une implication très forte des capitaux privés et qui se renforce continuellement,
l'allocation de ressources a aussi quelque chose à voir avec
la disciplinarisation. Mais vous ne pouvez pas discuter cette question comme une chose générale.
Je me rappelle quand les gens étaient très intéressés par Foucault, David Lloyd et d'autres personnes,
aux États-Unis, en Angleterre,
parlaient de l'État.
The state. There is no such thing as the state.
Or, il n'y a pas une notion d'État.
L'évidence de Foucault, elle venait de l'État français, qui est un genre d'État très très différent de ce à quoi ressemblent les États de droit commun. Donc, dans une certaine mesure, je ne peux pas parler de cet aspect très important dans quelques détails que ce soit, quand je parle de disciplinarisation. Mais, s'il vous plaît, gardez cela en tête.
Donc, et là elle revient au texte qu'elle avait quitté pour faire ses remarques. Je crois que c'est bon pour la politique de diviser le féminisme engagé en catégories constituantes.
En témoignent les plateformes d'action que le féminisme engagé, global et local, doit construire. Que les actions légales d'intérêt public en nom collectif requièrent.
Et de ce point de vue,
si notre engagement dans la rue requiert une légitimation, la matière disciplinaire est subsumée sous la construction du cas légal. Vous passez là aux disciplines plus socio-scientifiques et aux droits, et changez le discours de participation en savoir et conscience publique, et l'urgence du performatif en responsabilité de la construction.
C'est important, et les batailles que vous menez ne sont pas seulement sociopolitiques, mais aussi
académico-institutionnelles. Intérêt direct, vous savez. Et constamment, on me dit, par différents secteurs des études sub, comment ils ont de moins en moins d'argent, etc., etc.
J'étais juste à un meeting en juillet où on a découvert que la ville de Paris dépensait des sommes d'argent folles pour faire un institut d'études avancées à l'île de la Cité.
Et donc, on doit poser la question de comment on doit penser à propos des batailles que vous menez. Elles ne sont pas juste sociopolitiques seulement, mais aussi académiques institutionnelles. Dans mon propre travail, j'ai essayé de garder le domaine de l'extrême marge d'engagement libre de mon travail académique. Parce que c'est là où, il s'agit des écoles, parmi les sans-terres et les illettrés, où j'ai formé des enseignants depuis plus de 30 ans. Parce que c'est là où je dois apprendre des erreurs que je peux faire seulement si je ne suis pas en train de rechercher une validation académique. Si je me pose continuellement la question de
comment ce travail va être disciplinarisé et sanctionné académiquement, je vais le perdre. Je ne peux pas poser cette question. Alors, vous qui m'écoutez, vous devez garder ça en esprit. Sinon, les erreurs sont définies par les requis de la discipline. Ne me comprenez pas mal, je pense qu'il faut une solidarité absolue. Et elle doit se pratiquer à l'intérieur de l'université.
De sorte que le sujet de la discipline, sujet avec S majuscule, S en capital, n'est pas seulement l'apparence de personnalité masculine honoraire, la majorité visible,
parce que c'est souvent juste ce que je suis, un homme honorable, pas du tout prise
pour quelque chose qui peut être reconnu comme étant intéressé à un quelconque combat sur le genre. Je reprends. Une personnalité masculine d'honneur, donc. Néanmoins, je dois garder cet espace incalculable et contingent ouvert. Contingent, pas nécessaire. Pas nécessité par la disciplinarisation, la sanction académique, la réflexivité, etc., etc.
Et c'est là-dessus que je vais finir tout à l'heure.
J'avais pensé que je terminerais là-dessus et j'allais parler de trucs merdiques. Mais j'ai trouvé que j'allais pas finir là-dessus. Mais j'ai juste gardé ça dans le texte pour mémoriser, pour me rappeler de quel était mon premier mouvement, ma première idée. Mais c'est pas là-dessus que je vais finir.
J'espère que vous n'allez pas trouver mon discours irresponsable, mais ça serait irresponsable vis-à-vis de mon propre engagement
si je l'ignorais. Si je prétendais que la sanction académique du féminisme engagé peut occuper mon entière attention. C'est aussi pourquoi j'ai commencé par parler de l'instrumentalisation du travail dans cette fin, de manière à ce que l'autre travail puisse continuer. Parce que c'est l'arène dans laquelle faire des erreurs en leurs termes et d'apprendre. Bien plus grande différence culturelle là qu'entre vous et moi. Et là, elle a sauté un passage de son texte que je vais quand même vous traduire.
Je ne dis rien de spécialement nouveau. Ça a été signalé par Raymond Williams lui-même, pas particulièrement
un féministe, il y a déjà de nombreuses années.
Chaque moment culturel est marqué par l'usage des dominants, du résiduel, en sorte de faire que son action ait l'air plus bénigne, bénéfique que dans le passé. Et ainsi continue à s'approprier tout discours émergent, loin de l'opposition, vers simplement des alternatives. Nous, en littérature, assumons le pré-émergent. Et donc, la meilleure chose que je puisse dire serait comment ne pas juste demander à l'université simplement une tolérance répressive, d'offrir pas plus que des alternatives. L'opposition ne peut pas être contrôlée à l'intérieur de la discipline. C'est le moment de l'excès.
Donc c'était ça le passage qu'elle a sauté. Maintenant je reviens au texte de la conférence telle qu'elle le dit.
Pour défaire le binaire entre le féminisme engagé et l'académie, je réalise ces jours-ci
que l'on doit
reconnaître la complicité dans le sens le plus robuste d'être plié ensemble, relié, folded.
Avec les intérêts qui mènent la discipline vers le courant principal, le mainstream.
On est vraiment impliqué là-dedans. On est relié là-dedans. On est folded. Plier ensemble dans ce qui amène les disciplines vers le mainstream, vers le courant principal. En autre terme,
in other words, gendered corporate capital, the prime mover, gendered corporate capital.
Je vais vous dire, je reviens juste d'une petite ville au Nigeria,
Kitali, et là-bas, il y a banking on women, compter sur les femmes, le microcrédit, gender corporate capital.
Et là, c'est la fille de mon ami Henry Jakava.
qui était très fière de dire que sa fille était maintenant la responsable de tout ça. Elle devient la directrice de tout ce mouvement. Et j'ai retenu ma langue, je me suis demandé si j'allais dire à quel point j'étais contre ça, que j'ai été critique de ça pour des nombreuses décades.
Mais j'ai rien dit, c'est sa fille.
Cette complicité, le fait d'être reliés ensemble, d'être folded ensemble.
Il faut la reconnaître. Quand je dis que nous sommes complices avec la production du capital, c'est à comprendre dans le sens qu'aujourd'hui, la tâche est de donner un tour au capital, opiniâtrement, en sorte que le social prenne en compte le genre. Afin de rendre cela tout à fait clair, ici, dans la ville de Paris, et là il y a toute une digression par rapport au texte écrit.
En fait, elle pensait que la conférence allait se tenir à Paris 8. Plutôt que dans ce regroupement de campus où la conférence se tient. Parce qu'elle n'avait pas eu le temps de lire bien en détail les emails.
Faut vous dire que je suis née en 42. Et quand Vincennes s'est ouvert, vous savez, c'était quelque chose. Je me rappelle d'avoir vu les gens là-bas. Et je me rappelle une fois, là parce qu'on était en train de se dire vous l'une et l'autre tout à l'heure. Et je me suis rappelé que j'étais dans cette pièce.
Quand Deleuze a engueulé quelqu'un pendant des heures parce qu'il lui avait dit vous.
Et il y avait des gens jusqu'au plafond.
Deleuze a vraiment excorié,
fustigé
un mec plus vieux pendant 45 minutes pour lui avoir dit « vous ».
Et donc c'est pour ça que là j'ai écrit Paris 8, parce que de toute façon j'étais en train de faire tellement de choses ensemble et puis que les trois quarts du temps, là où j'étais, il n'y avait pas de email.
Et de toute façon, comme tout ça s'est instrumentalisé, j'étais en train de signer les papiers pour être payée, mais à chaque fois je signais les mauvais papiers.
Oh là là, Dieu aime vraiment la bureaucratie française.
Donc là,
je pensais
vraiment à Vincennes quand j'ai écrit dans ce texte au sein de l'université qui a été fondée au nom de la Révolution.
Alors que j'étais déjà enseignante à l'université, toute jeune assistante que j'étais. Bon, on reprend. Je dois signaler
qu'il y a une convergence entre le début du capitalisme et le féminisme comme une gestuelle
contrainte. Et c'est pas seulement le féminisme occidental. C'est un truc, ce féminisme occidental.
Heureusement, quand vous m'avez présenté, vous n'avez pas dit que je m'opposais au féminisme occidental, vu que je suis moi-même en Occident depuis tellement d'années. Si jamais je m'étais opposée à ce féminisme occidental, ça aurait été quand même bizarre que je vive pendant 52 ans aux États-Unis. Ça aurait été vraiment une très étrange manière de s'opposer au féminisme occidental.
Donc, je dois signaler la connexion
entre l'émergence du féminisme et du capitalisme
comme un geste contraint depuis l'intérieur, pas comme une chose s'opposant à une autre chose, en tant que moment d'autocritique. Pas le foyer, pas le globaliseur tacite de l'hétéronormativité de la reproduction, où hétéro est, comme je l'ai dit, l'opposé de la supposée autonormativité de l'idée. Et en vérité,
quand nous voulons de la justice à l'intérieur de ce cadre, nous devons reconnaître,
comme pour la disciplinarisation, ce récit partagé, quels que soient nos combats spécifiques. Permettez-moi de commencer
par invoquer la tradition de la critique. C'est comme ça que je comprends la tradition de la critique, dans la mesure d'une polarisation entre critique et dogme. Rappelez-vous que je suis une européaniste indienne. Je ne suis pas ici comme une native informant.
Une informatrice indigène.
Depuis des années et des années, je m'oppose aux native informant.
Les informateurs indigènes.
Qui sont
non formés
à l'écriture et à la publication. Quand ils étaient chez eux, ils n'étaient absolument pas spécialistes de rien du tout et ils n'étaient pas
formés à la publication.
Et ils vont à l'étranger, et ils déclarent que leur langue maternelle est une langue étrangère, et ils deviennent
des informateurs indigènes
de leur culture, alors qu'ils y connaissent rien. Et donc ils tuent complètement la tradition locale de leur pays d'origine, où il y avait beaucoup d'études, des publications. Moi je ne suis pas une de celles-là. Je n'ai rien à dire par rapport à l'origine ethnique. Donc maintenant je commence par la critique et comprendre la polarisation entre critique et dogme. Penser de manière critique, c'est penser en référence à nos facultés cognitives. C'est comme ça la traduction anglaise de Kant. Penser de manière critique, c'est penser en référence à nos facultés cognitives seulement. Et de la sorte,
sans entreprendre de décider quelque chose à propos de son objet.
Par contre, penser dogmatiquement, c'est penser quelque chose contenu dans un autre concept qui constitue le principe de raison
et ensuite le déterminer en conformité avec cela. Je prends ça de Kant et je demande « Est-ce que le féminisme peut se permettre cet appel important de la tradition de la critique pour son propre sabotage affirmatif ?»
Le sabotage affirmatif, je dois en parler un petit peu. Saboter, c'est un mot qui vient de vous. Sabotage, ça veut dire
détruire l'usage de quelque chose. Le sabotage affirmatif, c'est une réécriture coloniale de ça.
On ne peut pas détruire les choses faites par des gens qui ont eu plein de temps pour les créer. C'est beaucoup plus important pour quelqu'un qui est un véritable activiste sérieux de connaître ses instruments de l'intérieur et de les utiliser contre leurs utilisations originelles. C'est ça qu'on appelle le sabotage affirmatif, différent du simple sabotage qui est improductif, qui détruit ce que l'autre partie utilisait.
Mary Wollstonecraft et Kant étaient contemporains. Kant est mort âgé d'environ 80 ans, tandis que Mary Wollstonecraft,
elle est morte à 38 ans, donnant naissance
à la future
Marie Shelley.
Si Kant, lui, ne pouvait pas mourir comme ça, si on pense à Wollstonecraft et à sa défense des droits des femmes,
on ne peut pas s'empêcher de penser à la Révolution française,
à Thomas Paine et à ses droits de l'homme, et au fait que ceux-ci, avec les modifications culturelles et les traductions, en sont venus à passer pour droit humain inaliénable ou loi naturelle.
Et c'est encore un lobby très puissant
à l'intérieur du féminisme engagé. Quoi qu'il en soit, Kant, dans une position où il n'avait pas à penser au bon établissement des droits, alors que Wollstonecraft, certainement, a été capable de voir, de sa propre manière, pas tant dans ses écrits politiques qui ont été tellement loués que dans sa méthode philosophique, et il avait le temps d'en faire ainsi, que, à la fin du XVIIIe siècle, la seule raison pouvait être placée en termes de règne, menant autant vers notre monde actuel où toute crise est gérée au nom du choix rationnel. Et je voudrais parler de ça dans quelques minutes en termes d'utopie dans le féminisme d'aujourd'hui.